voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Se soigner autrement. L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, causes et effets, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les médecines. Fabien Koresh dispense des soins ayurvédiques. Pour la voix du Kaizen, il partage avec nous sa connaissance approfondie de l'Ayurveda.
Le concept de cette série d'émissions pour la voix du Kaizen, c'est de présenter différentes thérapies alternatives. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à ouvrir, à considérer l'être humain dans son côté holistique, donc un corps, une âme et un esprit. Donc à travers cette série d'émissions, je rencontre différents thérapeutes qui proposent différents outils. Et donc aujourd'hui, ce qui va m'intéresser avec toi, Fabien, c'est l'Ayurveda. L'Ayurveda qui nous vient d'Inde, mais c'est à peu près tout ce que je sais de l'Ayurveda. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette médecine, si on peut parler de médecine ayurvédique ?
Alors, ça a commencé en 97 pour moi, lors d'une lecture tout simplement dans un magazine qui exposait tous les principes de médecine alternative. On parlait de médecine parallèle à l'époque, qu'on peut dire maintenant médecine complémentaire dans le jargon, qui est peut-être un peu plus approprié maintenant. Et donc à la suite d'une lecture, tout simplement sur ce qu'était la médecine ayurvédique, voilà, j'ai eu la curiosité d'aller voir un petit peu plus près par le biais de lectures de livres, notamment de Vasant Lad, qui est une personnalité dans le monde occidental, d'avoir apporté l'Ayurveda dans le monde occidental. Voilà, et puis au fur et à mesure, ça s'est développé. Et puis en 2000, j'ai commencé vraiment à prendre connaissance que c'était possible de se former en France à l'Ayurveda, et j'ai commencé donc avec l'Institut européen des études védiques, qui était à l'époque du côté de Montpellier. Voilà, et maintenant, il est en Atreya Schmidt, qui est le fondateur, est en Suisse maintenant. Donc j'ai commencé en 2000 avec l'apprentissage du soin corporel, c'est-à-dire avec le massage directement. Et donc là, ça a été, voilà, comme on dit, un révélateur, c'est-à-dire que j'ai eu des vifs encouragements de la part d'Atreya de pouvoir continuer, puis par la suite d'autres pairs, hein, P-E-R-E, de pouvoir avoir quelque chose à voir à faire avec mes mains et par le biais de l'Ayurveda. Voilà. Donc ensuite, je me suis formé plus précisément à tout ce qui était les techniques utilisées pour faire le panchakarma, c'est-à-dire les cures de détoxification de l'organisme, voilà, auprès donc de l'association Préma, hein, tenue par Vincent Maréchal, qui était à l'époque un des rares à pouvoir proposer des cures de cet ordre-là en France. Et puis ensuite, très rapidement, je suis parti en Inde auprès de docteurs ayurvédiques. Ça a été un peu mon tour du compagnon en Inde pour aller questionner, pour aller chercher des techniques, chercher aussi un savoir un peu plus expérimenté, surtout de personnes qui étaient vraiment des docteurs et des médecins qui pratiquaient tous les jours cette médecine-là, et de voir l'impact qu'avait cette médecine-là là-bas.
Donc l'Ayurveda est considéré en Inde, on va s'intéresser d'abord à la partie indienne, comme une médecine. C'est quelque chose qui aujourd'hui les Indiens l'utilisent toujours.
Tout à fait. Hein, on dit qu'il y a à peu près 70% de la population qui se soigne encore avec l'Ayurveda. C'est pas une revendication, c'est une réalité. C'est-à-dire que la médecine allopathique est une médecine qui coûte cher là-bas, alors que la médecine ayurvédique est la médecine de monsieur tout le monde. On va trouver des plantes au fond de son jardin pour faire des tisanes ou pour se soigner, faire des cataplasmes. Donc c'est une médecine accessible facilement, et surtout dans les endroits reculés, dans les campagnes, souvent il n'y a que l'Ayurveda d'ailleurs.
Donc l'Ayurveda, ça se passe comment ? Est-ce que c'est aussi, on va en pharmacie acheter des médicaments ayurvédiques, ou comment est-ce qu'on va soigner à travers l'Ayurveda, et qu'est-ce qu'on va soigner ?
Alors, en Ayurveda, il y a une partie, beaucoup de prévention, C'est-à-dire qu'on apprend ou on rééduque la personne à être très observatrice de ses fonctionnements. C'est très individualisé, chacun étant différent. On ne peut pas appliquer une formule pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, en Ayurveda, on parle des humeurs biologiques et des proportions d'humeurs biologiques qu'a chaque personne, chaque individu. Et donc, en fait, on vient découvrir un petit peu son fonctionnement. Ça, c'est tout l'aspect prévention. Donc, en fonction, il y a une alimentation. Hein, on va dire, on accentue sur la connaissance de son alimentation qui est la plus appropriée selon comment on est constitué. Et puis aussi de corriger des choses qui se sont installées en tant que petite ou grande pathologie. Et donc là, effectivement, on utilise les plantes, on utilise aussi les soins corporels, on va jusqu'aussi, donc du coup, au panchakarma, donc la détoxification de l'organisme. Donc il y a toute une palette d'actions possibles. Il y a en tout 8 branches en Ayurveda, on pourrait dire 8 spécialités dans une médecine moderne.
C'est-à-dire ?
Alors, vous avez la médecine que l'on dit de la tête et du cou. Hein. Alors, ça pourrait être ce qui est pour nous ORL, par exemple. Hein. Vous avez aussi une branche qui correspondrait plus à la médecine du généraliste. Vous avez la chirurgie aussi. Il y a la pédiatrie. Il y a la psychologie. Voilà, il y a les techniques de régénération du corps et il y a le panchakarma aussi, hein, la détoxification de l'organisme. Voilà, je n'ai pas compté sur mes doigts si je suis à 8, mais voilà, il y a plusieurs spécialités, quoi.
Tu dis, donc panchakarma, tu l'as utilisé plusieurs fois ce terme, donc la désintoxication de l'organisme. À quoi ça sert une cure de désintox ?
Alors, c'est une forme, on va dire, beaucoup, beaucoup plus poussée que ce qu'on appelle les cures de printemps chez nous, hein, à la petite... on va dire, potion que l'on prend au printemps pour dégorger son foie de tous les excès qu'il y a pu avoir l'hiver, par exemple. Là, dans le panchakarma, on utilise tout un principe de préparation du corps, d'oléation du corps, on surcharge le corps pour que les toxines puissent se véhiculer dans l'ensemble de tout ce qui est le circuit sanguin, le circuit lymphatique, se décoller des zones où ça a été fixé, que ce soit articulaire ou organe. Et ensuite, il y a des méthodes donc d'évacuation hein, par les voies naturelles. Soit on prend des fortes décoctions qui vont faire que on provoque une élimination forcée des sels. Voilà, toutes méthodes qui peuvent être utilisées pour nettoyer l'organisme par les voies naturelles.
Mais ça, c'est quelque chose qui, en Occident, on ne le fait pas, ou très peu. On parle des fois de jeûne, mais ce n'est pas quelque chose qui est peut-être dans le carême avant une époque. Mais aujourd'hui, plus personne ne prend le temps de faire une cure de désintoxication. Quel est l'intérêt sur le corps physique de faire ce genre de cure ?
Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, là aussi, on va dire, plutôt préventif, c'est-à-dire avant qu'il y ait un problème organique, hein, de pouvoir se débarrasser des toxines qui inévitablement se fixent hein, par l'alimentation, par l'air qu'on respire, par l'eau qu'on boit. On ne mange pas exactement ce qu'il faut au gramme près et qui va être utilisé par l'organisme. Donc, inévitablement, il y a un petit peu, au fur et à mesure des jours, des déchets qui s'accumulent dans un organe ou dans des articulations. Donc, l'aspect préventif, c'est justement de... quand on dit panchakarma, il y a eu des traductions qui étaient « rajeunissement ». C'est un terme un petit peu galvaudé, bien sûr, on ne va pas prendre 10 ans en moins quand on fait une cure, mais on dit que parce qu'on débarrasse certains organes de toxines, c'est-à-dire de choses qui vont brider son fonctionnement, alors on va être en meilleure santé le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est l'aspect préventif quand il n'y a rien, on va dire, de fonctionnel grave. Sinon, ensuite, ben, ça peut être parce qu'il y a déjà quelque chose d'installé, de chronique, et d'insistant, où on l'a, par le biais de la détoxification des organes, on va lui permettre de refonctionner plus normalement et donc de corriger ce qui s'est installé depuis plus longtemps et qui pousse jusqu'à une pathologie.
Donc ça, c'est pour le panchakarma. Mais l'Ayurveda, c'est pas forcément faire cette retraite-là. Il y a différents aspects. Donc comment va se passer une consultation ? Qui va venir te voir et comment ça va se passer ?
Alors généralement, la recherche, déjà, c'est que la personne... Elle veut prendre soin de soi. Et on peut, il y a 4 piliers en Ayurveda, c'est-à-dire qu'il y a le médecin, il y a le remède, il y a le thérapeute, c'est-à-dire celui qui va traiter le corps, mais il y a le patient aussi. C'est-à-dire que le patient, il faut qu'il soit en demande et il faut qu'il soit acteur. Maintenant, tout de suite, maintenant en Occident, à l'heure actuelle, c'est des personnes qui, sont déjà dans des démarches de prendre soin de leur santé par eux-mêmes, donc souvent le préventif. Voilà, ça c'est une première chose. Donc des personnes qui ont connu la médecine traditionnelle chinoise, qui connaissent l'acupuncture, qui connaissent l'homéopathie, la phytothérapie, voilà, sont amenées à un moment donné à croiser aussi qu'est-ce qu'est l'Ayurveda par le biais d'une lecture. Et donc ce sont des personnes aussi qui ont fréquenté le milieu du yoga, puisque ça se rapproche plutôt de ce qu'est l'Inde aussi, hein, donc qui sont curieuses d'aller plus loin pour améliorer leur santé ou pour enlever quelque chose qui les embête.
Et donc là, c'est pas forcément un massage, parce que c'est vrai qu'on associe souvent l'Ayurveda au massage.
Oui, tout à fait. L'Ayurveda a été connue prioritairement comme étant une technique de massage. En fait, ça n'existe pas. Massage ayurvédique, ça n'existe pas. On dit massage Abhyanga, qui est une technique de massage, Vishesh, les points Marma, ça ce sont des techniques même de soins en Ayurveda, mais massage ayurvédique, ça n'existe pas. Mais c'était effectivement comme ça que l'Ayurveda s'est fait connaître au départ ici en Occident, c'était par le biais d'une technique de massage, oui. Mais c'est une médecine globale.
Quand tu dis global, qui prend donc l'être humain dans sa globalité.
Voilà, tout à fait, hein, puisque on agit beaucoup sur le corps, hein, là j'insiste beaucoup sur l'aspect physiologique, hein, mais effectivement, l'Ayurveda, on ne peut pas parler d'Ayurveda sans parler de cette sagesse indienne aussi, et donc qui comprend aussi ce qu'est l'émotionnel et ce qui est le spirituel, hein, sans trop aller sur ce terrain-là. On ne peut être bien dans un travail émotionnel ou de recherche spirituelle que si le corps aussi est en bonne santé. Voilà, donc c'est un ensemble. Quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Tu parlais de quatre piliers, donc le docteur, le thérapeute, le patient et la médecine, le médicament, c'est ça. Donc le thérapeute et le docteur sont deux personnes différentes. Le docteur, il y a vraiment le côté docteur, enfin médecine dans l'Ayurveda.
Tout à fait, hein. Il y a donc en Ayurveda et en Inde, donc il y a des collèges, des universités qui forment des docteurs ayurvédiques. Hein. C'est 6 ans d'études, on sort de l'université avec un diplôme de docteur ayurvédique. Et c'est différent, hein. C'est un peu comme si on disait le docteur et l'infirmier, hein, pour replacer les choses un peu dans des termes plus connus d'ici. Hein. Donc il y a des différenciations. Ouais.
Est-ce que l'Ayurveda, qui est donc adapté à la culture indienne, s'applique aussi à, ici en France ? Est-ce que les gens sont ouverts ? Est-ce que, je ne sais pas, peut-être l'alimentation est différente ici et chez nous, là-bas et chez nous ? Enfin, est-ce que cette technique se transpose facilement d'une culture à une autre ?
Alors, bien sûr, ça, c'est possible, hein, puisque l'Ayurveda n'est pas figé dans le temps. Ça n'a pas été fait uniquement pour des yogis dans les Himalayas il y a 3000 ans. Hein, les bases d'un corps humain restent les mêmes. Donc, l'Ayurveda a pu, effectivement, progresser selon les époques dans lesquelles on vivait. Et donc, il y a des préceptes que l'on peut toujours appliquer de nos jours. Hein. Mais je pense que le premier intérêt, de toute façon, c'est ce retour, cette rééducation que l'on a faire, surtout maintenant à l'heure actuelle, sur comment notre organisme fonctionne. C'est-à-dire qu'on a eu une tranche là qui a duré, on va dire, presque un demi-siècle, où on s'est un petit peu débarrassé d'être responsable de notre fonctionnement corporel, c'est-à-dire de notre santé. Et donc là, c'est un peu une rééducation que propose aussi du coup l'Ayurveda par ce biais de connaître son dosha, hein, prédominant, c'est-à-dire ses humeurs biologiques, par le biais de aussi dans la cuisine, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour telle ou telle humeur biologique. Donc on voit naître quand même des choses très pratiques, hein, que l'on peut adapter avec les produits que l'on a d'ici. Hein. L'Ayurveda n'est pas réservé à une époque ou à on va dire un pays, hein, il s'adapte selon l'endroit où on vit. Et quelqu'un qui vit à la montagne ou à la mer n'a pas les mêmes besoins parce qu'il n'est pas soumis au même environnement, par exemple. Et donc, que ce soit en Inde ou ici, on peut reporter les mêmes critères.
Une humeur biologique.
Oui, humeur biologique, c'est le terme qui a été le plus mis sur le mot dosha, hein, pour traduction. Hein. Donc humeur biologique, en Ayurveda, c'est ce qu'on prend vata, pitta et kapha, hein, qui sont des regroupements de caractéristiques. Donc l'humeur vata, par exemple, a des caractéristiques les plus évidentes, c'est le froid et le sec, par exemple. Hein. Aussi au niveau des cinq éléments, les fameux cinq éléments qu'on retrouve en Ayurveda, il s'agit de l'air et de l'éther. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'humeur vata. L'humeur pitta est vraiment le feu, hein, donc associé à la chaleur. Hein, et l'humeur kapha est associée à l'eau et à la terre, donc à ce qui est humide et froid. C'est pour définir de façon très, très grossière, quoi.
Donc ça veut dire que chaque patient ou chaque morphologie, en fait, va correspondre à une de ces humeurs biologiques, un de ces doshas, donc vata, kapha, pitta.
Alors, on a les trois, hein, comme on a les cinq éléments. Hein, en soi, puisque ces humeurs, elles doivent toutes exister pour former un corps entier. Le plus évident, c'est qu'on a tous du kapha, puisqu'on est composé d'eau, hein, et que kapha est l'élément eau, par exemple. Hein. Le feu, bien entendu, il n'existe pas à l'état brut, comme on peut voir du feu dans la cheminée, mais ça va être un petit peu tout ce qui est les acides du corps, par exemple, hein, et tout ce qu'on appelle le feu digestif en Ayurveda, tout ce qui va permettre la métabolisation. Et ce qui est le vata dans l'organisme, ça va être la mobilité, tout ce qui est mobile, hein, dans le corps, mais aussi tout ce qui est les mouvements spontanés, le mouvement cardiaque, le mouvement de la respiration, par exemple. Donc, vous voyez, on a tout, chacun des doshas contient une part que l'on peut bien identifier dans l'organisme.
Comment va se passer une première consultation pour quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec un thérapeute ayurvédique? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va venir ici et ensuite?
Alors ensuite, il y a des points d'observation corporelle, c'est-à-dire que je vais être amené à prendre le pouls, comme en médecine chinoise ou en médecine tibétaine, il y a une façon dont on a de regarder justement ces humeurs biologiques en prenant le pouls au niveau du poignet. Donc ça c'est une des premières observations. On observe aussi la langue. Hein. Il y a un peu une cartographie sur la langue aussi. Sur les organes, hein, et donc aussi la caractéristique même de la langue, si elle est chargée, bien évidemment, ou si elle est très rouge, ou s'il y a des zones particulières qui sont enflées. Voilà, ça, c'est d'autres observations. On observe aussi la qualité de la peau, la qualité des cheveux, des ongles, les yeux aussi. Donc, il y a des lectures corporelles comme ça qui se font. Et ensuite, il y a un aller-retour de questions-réponses pour savoir quel est le quotidien de la personne, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'il vaut mieux du coup réorienter, et surtout qu'est-ce qu'elle peut réorienter dans sa vie de façon très pratique. Hein, parce qu'effectivement, là où on peut tomber un peu dans une voie sans issue, c'est de vouloir adopter une vie ayurvédique totalement parfaite à l'identique des lectures que l'on peut voir dans les textes anciens. Hein, ça c'est, il faut réadapter un petit peu les choses sans se dénaturer complètement, mais que la personne surtout comprenne bien là où il y a à corriger parce que ça lui porte tort. Qu'elle le voie immédiatement ou à long terme.
Voilà. Donc, qui c'est qui va venir? On va prendre peut-être un exemple concret d'un patient qui va venir avec une problématique ou sans problématique ou...
Il y a les deux. Hein. Comme je disais, il y a des personnes qui souhaitent améliorer ou pousser un petit peu plus loin leur prise en charge de leur santé parce qu'elles ont déjà mis en route des choses. Et puis, il y a des personnes qui, effectivement, ont des soucis de santé qui deviennent récurrents. Et qui veulent trouver une solution naturelle, voilà. Et puis, il y a des fois un peu la personne qui vient en dernier recours, hein, parce que, elle a été poussée à aller chercher des solutions tout azimut. Donc là, il y a toute possibilité, quoi. Maintenant, étant donné que c'est connu vraiment, je dirais, depuis 5 ans, de façon beaucoup plus large au niveau information, que c'est une médecine. Donc, il y a tout type de personnes qui peuvent venir, alors qu'avant, c'était plutôt des personnes qui avaient connu le monde du yoga ou de l'Inde et qui se rapprochaient de l'Ayurveda pour en avoir entendu là-bas.
Est-ce qu'il y a des ponts entre la médecine conventionnelle et l'Ayurveda? Est-ce que vous bossez ensemble avec les médecins généralistes ou pas du tout?
Alors très 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 peu en France. Maintenant, moi je croise souvent des docteurs qui conventionnels, hein, allopathiques, qui sont ouverts à d'autres logiques de pensée. Et donc là, ça devient complémentaire, effectivement, de pouvoir... Mais travailler ensemble, c'est difficile par rapport au contexte, on va dire, législatif. Hein. Un docteur allopathique aurait des difficultés à travailler avec une autre technique par rapport à son métier même, hein, et aux conventions qu'il y a dans son métier. Mais il y a toujours un peu un aspect complémentaire, effectivement, quand voilà, il y a quelqu'un qui est assez ouvert et qui aiguille, voilà, d'aller voir quelqu'un qui fait des médecines complémentaires. Voilà.
On parle de médecine complémentaire.
Non, et dans l'autre sens, tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis, quand une personne vient me voir pour un bilan et que je peux m'apercevoir qu'il y a un problème sérieux, tout ce qui peut servir à la santé est bon à prendre. Hein, il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas d'extrémisme non plus. Si la personne vient et que je vois que ce serait utile qu'elle ait des radios, qu'elle ait, on va dire, aussi une échographie parce qu'il y a un doute, qu'elle y ait une prise de sang, voilà, tout est bon à prendre pour la santé. Hein, voilà.
On n'a pas parlé de massage, donc là, quand tu parles de consultation, c'est plutôt donc une observation du pouls, des yeux, de la peau, de la texture de la langue. S'ensuit donc une conversation pour découvrir un peu les habitudes de la personne. Où est le massage?
Alors là, c'est une autre, un autre aspect. C'est-à-dire que le premier aspect, c'était ce qu'on appelle un bilan. Hein, c'est-à-dire vraiment, on fait le tour de la question, savoir quel est l'état de santé avec cette grille de lecture de l'Ayurveda de la personne. Qu'est-ce qu'elle peut faire au quotidien pour son alimentation, son hygiène de vie. Un autre aspect, c'est effectivement le traitement du corps, hein, donc le massage, qui pris ici, hormis contexte de cure, est vraiment l'entretien du corps, c'est-à-dire qu'on va assouplir les muscles, déloger les tensions musculaires et aussi amener un apaisement aussi du système nerveux, par exemple, travailler des points un peu comme... En Ayurveda, on parle de points marma qui sont un peu le pendant des points d'acupuncture pour la médecine chinoise. Voilà, donc ce sont des traitements corporels que l'on fait. Ça, c'est autre chose, c'est une autre activité.
Donc un patient qui vient ici n'aura pas forcément un massage, pas du tout?
Pas forcément, ça dépend de sa demande, hein, tout à fait. Il y a des personnes qui, ou par culture, ou par n'ont pas forcément envie de recevoir du massage, donc ce n'est pas une obligation, bien entendu, de passer par du massage pour avoir des conseils en Ayurveda.
Pourquoi est-ce qu'il faut venir faire une séance d'Ayurveda? Pourquoi est-ce qu'il faut venir voir un praticien ayurvédique?
Je dirais que c'est un petit peu une réponse un peu comme équivalente à la précédente. C'est pour cet esprit de se prendre en charge, hein, prendre en charge sa santé avant tout, plutôt que d'attendre qu'il y ait un problème de sa santé pour réagir. Hein. Ça, je dirais que c'est quelque chose, je pense que les personnes seront amenées, bon gré, mal gré, à venir en questionnement, à se poser comme question, parce que, voilà, on va dire que la médecine conventionnelle actuelle, ben, il y a des limites, dans un sens qu'elle ne peut pas tout, surtout, et que peut-être qu'il vaut mieux passer aussi par des moyens naturels avant d'avoir accès à une médecine qui est vraiment ce qu'on a, je dirais, un peu rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'il y a des moyens beaucoup plus lourds en conséquence, en effet secondaire, comme on dit.
Pour la partie émotionnelle, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que là, ça demande beaucoup d'empathie de la part du praticien.
Ça, c'est toute la partie écoute, effectivement, que tout praticien ou tout thérapeute, d'ailleurs, hein, au sens large du terme, doit avoir. Hein. C'est vrai qu'en Inde, ils ont du mal à prendre ce critère-là en charge, en considération. Ici, on y est beaucoup plus averti. sans devenir ou d'abord avoir fait des études de psychologie avant d'être praticien d'Ayurveda ou thérapeute ayurvédique, il faut avoir un sens de l'écoute de façon assez innée, ça c'est vrai. Hein.
Fabien, tu as fait un livre, peut-être me parler de ton bouquin et de ce qu'on va y retrouver.
Oui, alors c'était un livre qui a été édité par la maison Le Duc, hein, l'édition Le Duc, que j'ai fait avec Nathalie Ferron, qui est journaliste. Et le sens de ce livre-là, c'était d'avoir un outil pratique surtout, hein, sur justement qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien avec l'Ayurveda. Hein, c'était un but pratique. Il y a bien sûr un peu de théorie justement pour connaître les fameuses humeurs, Vata, Pitta et Kapha. Il faut passer quand même un minimum par un peu la philosophie aussi de ce qu'est l'Ayurveda, mais aussi tout un tas, on va dire, de possibilités pratiques, c'est-à-dire l'automassage aussi à faire au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait comme rituel du matin, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dhinaksharya, les routines du matin pour justement prendre soin de la langue, prendre soin du corps, dans quel ordre on fait les choses aussi, qu'est-ce qu'est le petit déjeuner aussi, par exemple, vous voyez, hein, des choses très, très pratiques.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.